Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Plusieurs pays importants de la planète ont refusé de condamner la Russie pour son aventure meurtrière en Ukraine, parmi eux l'Inde, dont la population est sur le point de devenir la plus importante du monde et dont le poids n'a jamais été aussi grand, cinquième puissance économique mondiale et une armée forte de 1,3 million de soldats jugés par Washington indispensable à l'équilibre des forces en Asie. Un pied dans le camp occidental, un autre dans la russosphère. Malgré ses contradictions, l'Inde va se retrouver au cœur de la diplomatie mondiale dans les prochains mois. Le 1er décembre, New Delhi prendra la direction du G20 pour une année et accueillera le sommet annuel prévu en septembre 2023. La position de l'Inde est souvent difficile à saisir. Quel risque pour ses choix diplomatiques? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, et membre d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Christophe Jaffrelo, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et du CNRS, président de l'Association française de sciences politiques et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de L'Inde de Modi, paru chez Fayard, et L'Inde contemporaine, en poche, chez Fayard également. Bonjour.
Bonjour.
Également en studio, Olivier Dallage, rédacteur en chef à Radio France Internationale. Son dernier ouvrage, L'Inde, un géant fragile, qui vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Cela fait plusieurs années que l'Inde tente de se tailler une place sur la scène internationale. Sa position peut être qualifiée de multi-alignée. Elle crée des partenariats et maintient des relations avec plusieurs pays, participe de plus en plus au sein d'organisations internationales et utilise ses canaux pour promouvoir ses intérêts. Elle joue le jeu d'une grande puissance, ce qu'elle est, du fait de son armement nucléaire et de son poids économique. Les Occidentaux ont pensé la détacher de sa relation privilégiée avec la Russie, établie au temps de la guerre froide, en prenant prétexte de la nécessité d'unir les puissances asiatiques contre la Chine. L'Inde a bien rejoint le Quad, un regroupement de coopération militaire anti-chinoise avec les États-Unis, l'Australie et le Japon, mais elle est aussi membre d'un regroupement anti-occidental, l'Organisation de coopération de Shanghai, dont le sommet se tenait il y a quelques semaines en présence d'un nombre croissant de pays, dont certains comme la Turquie, le Pakistan et l'Égypte sont des alliés des Américains. L'alliance entre l'Inde et la Russie est une alliance ancienne, qui remonte à 1971. Quel regard portez-vous chacun sur le positionnement de l'Inde vis-à-vis de la Russie dans le contexte actuel de guerre en Ukraine? Quelle est la réalité de ce positionnement? La guerre en Ukraine met-elle à l'épreuve l'équilibrisme de la diplomatie indienne, Jean-Luc Racine?
En réalité, plutôt que de mettre à l'épreuve, la guerre en Ukraine illustre cet équilibrisme. Pour ma part, le concept de multi-alignement me paraît être un oxymore, parce que par définition, si on est aligné de tous les côtés, on n'est pas véritablement aligné. Et c'est précisément cette ligne de politique étrangère qu'a défini l'actuel ministre indien des Affaires étrangères, Jaishankar Subramanian, en mettant en avant dans un ouvrage récent une volonté de réalisme. Alors je passe sur la question qui est quand même une question importante. Est-ce que le nationalisme hindou aujourd'hui au pouvoir a un poids sensible, idéologiquement parlant, sur la politique étrangère? Mais en réalité, il est clair que autant l'Inde a jeté aux poubelles de l'histoire Nehru et son non-alignement, autant en réalité, sa politique étrangère relève d'un nouveau non-alignement qu'on affuble d'autres qualificatifs, autonomie stratégique ou donc multi-alignement, même si le mot ne veut pas dire grand-chose. Et c'est cette politique d'équilibre qui fait à la fois la ligne directrice de la politique étrangère et qui peut poser certains problèmes. Mais on l'a vu, les États-Unis, qui ont besoin de l'Inde dans l'Indo-Pacifique, ont finalement accepté que l'Inde s'abstiennent systématiquement à l'ONU sur les votes concernant l'Ukraine et que l'Inde n'applique pas les sanctions vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, cherchant au contraire à profiter des prix d'amis que Moscou donne sur les produits énergétiques, par exemple.
Il faut dire que les États-Unis ont terriblement besoin de l'Inde. Christophe Jaffrelo.
Oui, ils ont besoin de l'Inde, les États-Unis, mais ils sont déçus par l'Inde. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté liée à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y avait une attente, il y avait une illusion même, on peut dire. on pensait que l'Inde était un ami qui allait prendre parti. Et Blinken, en particulier, a été très déçu, même choqué.
Le secrétaire d'État américain.
J'étais d'ailleurs à Washington, au State Department, au moment des exercices de Vostok, où là, c'était quasiment un traumatisme. Véritablement, les voir, les Indiens, aux côtés des Chinois et des Russes, en Russie pour un exercice militaire, alors que la guerre en Ukraine faisait rage, ça a été quand même, comme ils l'ont dit, « disappointment ». Une déception. Alors, ça ne veut pas dire que ça remet en cause le désir de s'appuyer sur l'Inde en Indo-Pacifique, mais ça le qualifie. Et en quelque sorte, les Américains sont en train de ramener à la baisse leurs attentes. D'autant plus que, rappelez-vous que cet été, on a lancé quelque chose qui est passé assez inaperçu en Europe, et bien à tort, le Indo-Pacific Economic Framework, qui a vocation à faire que le Quad soit le noyau ou la matrice de quelque chose de plus économique. Hein. Vous avez souligné la dimension militaire dans votre introduction. Pour les Américains, la dimension militaire, à la limite, elle est plus du côté de AUKUS dans l'Indo-Pacifique. Là, on a quelque chose qui n'est pas principalement militaire avec le Quad. Et les Indiens, d'ailleurs, ne voudraient pas être partie prenante d'un partenariat militaire avec les Américains en Indo-Pacifique. Par contre, développer ce que le IPEF cherche à faire, notamment le commerce, notamment la connectivité, le digital, hein, ça, c'est les grands piliers du IPEF. Les Indiens n'ont pas voulu en être partie prenante. En tout cas, pas de la dimension commerce. Ça veut dire qu'ils sont en retrait et que les Américains continuent à miser sur eux par défaut, mais non plus les attentes qu'ils pouvaient avoir. Qu'ils avaient bien à tort. Comme le disait Jean-Luc Racine, le livre de Jay Shankar, hein, The Indian Way, s'il l'avait lu, il n'aurait pas eu autant d'attentes du côté des Indiens, parce que c'est clair. Lui, il parle de plurilatéralisme, mais c'est la même chose. C'est la métaphore de la roue de vélo au centre. Et nous cherchons à faire que le monde multipolaire nous permette des alliances, le mot est trop fort, des partenariats à géométrie variable. Un coup, c'est avec les Russes, un coup, c'est avec les Américains, un coup, c'est avec les Européens, un coup, c'est avec les Japonais, en fonction des sujets. Mais nous ne sommes les amis de personne, ou plutôt de tout le monde. Et alors là, pour le coup, je termine là-dessus, mais c'est quand même très différent de ce que Nehru avait voulu faire.
Alors, beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Alors, je reviens sur le ministre indien des Affaires étrangères et qui disait, alors bien sûr, c'est une traduction, il est temps pour l'Inde d'engager l'Amérique, de gérer la Chine, de cultiver l'Europe, de rassurer la Russie, de faire participer le Japon, d'attirer les voisins, d'élargir le voisinage et les groupes de soutien traditionnels. La question qui se pose, Olivier Dallage, c'est tout de même, au fur et à mesure que cette guerre en Ukraine va se poursuivre. Alors, on a vu Narendra Modi, on l'a plutôt entendu dire tout de même à Vladimir Poutine que l'heure n'était pas à la guerre. Et tout de même, l'Inde et la Russie sont très liées sur les questions d'armement. Ce que voit aujourd'hui l'Inde, c'est les fournitures d'armement en provenance de Moscou se tarir sévèrement. Est-ce à dire que pour l'Inde, la Russie aujourd'hui n'est plus un allié fiable ?
Alors encore une fois, le terme d'allié ne correspond pas, parce que même si le traité de 71 ressemble beaucoup à un pacte d'alliance, le mot n'y figure pas et c'est totalement tabou en Inde. Même quand c'est une alliance, ça ne doit pas en être. On est en fait dans une situation qu'a exprimé Jay Shankar il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines environ. Il était en Australie et on lui posait bien sûr les questions sur son rapport avec la Russie. Il dit, mais c'est parce que les Occidentaux, pendant des décennies, n'ont pas voulu nous livrer des armements. Et donc, c'est vrai, ils sont dépendants du matériel russe. Et il ne suffit pas de dire on arrête parce qu'il y a de la maintenance, des pièces détachées, des munitions. Ça n'empêche pas que les fournitures en armement de l'Inde, qui est le 2e ou le 3e acheteur mondial d'armement, s'est beaucoup déplacé vers les États-Unis, vers Israël, vers la France. Mais enfin, il y a quelque chose comme 60 ou 65% des armes indiennes qui sont soviétiques ou russes. Et ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc on en est là, et il ne leur a pas échappé non plus que les tanks et les avions correspondant à leur propre équipement ne donnaient pas de grande performance sur le territoire ukrainien. Et comme leur manuel d'utilisation, c'est le même que celui des Russes, ça fait aussi beaucoup réfléchir.
Est-ce que l'on peut dire, Jean-Luc Racine, que la politique russe de l'Inde, finalement, répond à une sorte de manque d'alternative pour New Delhi ?
C'est un peu plus compliqué, bien sûr, parce que, bon, effectivement, les paramètres de défense sont importants. Mais indépendamment des stocks existants, ces dernières années, l'apport russe aux importations d'armement indiennes, c'était moins de 50%. La France devenant le deuxième fournisseur et les États-Unis troisième au fil des deux ou trois dernières années. Donc le lien est quand même toujours fort, mais il s'agit aussi de se sentir libre. Et là, on retombe sur la question centrale, qui est à la fois une volonté de réalisme et un refus de se lier les mains par des alliances de concepts ou des alliances de textes. On veut jouer sur tous les tableaux. Mmh. Et ça a été théorisé de façon très simple, en disant que le monde d'aujourd'hui est marqué à la fois par un multilatéralisme affaibli et par une multipolarité croissante. Donc la multipolarité croissante s'est vue comme étant une opportunité pour l'Inde de déployer donc, ce qu'elle appelle son autonomie stratégique, on peut trouver d'autres formules, mais de faire que quand on juge que c'est meilleur pour nous de faire ceci ou cela, on le fait, tout en envoyant éventuellement des signaux à l'autre partie. Alors évidemment, il y a une position d'équilibrisme, mais au-delà de ça, se pose quand même la question, je rebondis sur ce qu'était votre introduction en disant que l'Inde est une grande puissance. Jay Shankar l'a défini dans son ouvrage de 2020 comme étant une puissance moyenne, dans laquelle il y a la France, le Japon, le Royaume-Uni, etc. Mais l'objectif affiché de l'Inde qui célèbre cette année son 75e anniversaire, c'est d'être donc en 2047 une vraie grande puissance. La question, et là on déborde de la géopolitique, c'est de savoir si elle aura les moyens d'atteindre ce but en fonction de ses paramètres économiques, de sa cohésion sociale et politique, alors que, vous l'avez rappelé, l'Inde est la cinquième puissance économique mondiale aujourd'hui, mais à l'indice de développement humain, elle est au 132e rang.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, là aussi, je rebondis sur cet objectif 2047 que vient d'évoquer Jean-Luc Racine, faire l'Inde une grande puissance. Pour cela, Christophe Jaffrelot, l'Inde a beaucoup besoin des États-Unis, qui sont, on peut le rappeler, le premier partenaire commercial de l'Inde devant la Chine. Je poursuis tout de même avec la question de la Russie. Poursuite de la guerre en Ukraine, affaiblissement de la Russie, une Russie isolée. C'est pas non plus une bonne nouvelle pour l'Inde, qui risque de voir la Russie se réfugier dans le camp chinois.
C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Inde, qui va peut-être devoir choisir sous la contrainte, effectivement. Une Russie qui décroche, c'est d'une part effectivement des fournitures d'armes qui disparaissent. On n'a pas évoqué les S-400, mais voilà un sujet majeur. Les S-400 étaient
fournis par Moscou,
étaient quand même le joyau de la couronne. Les Russes étant prêts à partager une technologie que, c'est vrai, les Occidentaux, eux, ne veulent pas partager encore avec les Indiens. Bon, si les S-400 ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas être livrés, il faudra bien aller chercher ailleurs. Alors, par parenthèse, ce qu'on n'a pas encore dit non plus, c'est que voilà un pays qui n'a toujours pas d'industrie de défense, qui importe 20 milliards de dollars d'armes tous les ans, faute d'avoir réussi à construire tout seul les chars, les avions, que des pays de même rang sont en mesure de construire. Là, il y a quand même un énorme point d'interrogation. Pourquoi, après tant d'années, tant d'argent investi, il n'y a toujours pas d'économie de défense, d'industrie de défense? Mais ça crée effectivement une dépendance vis-à-vis de la Russie, qui, si la Russie s'affaisse, pour ne pas dire plus, prive l'Inde d'un partenaire clé. Alors, c'est une mauvaise nouvelle du point de vue des fournitures militaires. C'est, comme vous le dites aussi, une mauvaise nouvelle en termes d'équilibre géopolitique, parce que ça va accroître la dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine, ce que l'Inde redoute par-dessus tout, parce que son ennemi numéro un, c'est la Chine, à l'Inde. Se battre en Europe, elle l'a dit clairement, ça n'est pas son problème. Soutenir les Européens, les Occidentaux en Europe, ça n'est vraiment pas son problème. Son problème, il est à la maison. Enfin, il est à la maison, il est en Asie du Sud. Et on n'en parle pas assez, les poussées chinoises dans l'Himalaya sont incessantes. L'Inde est en fait en train de perdre du terrain sur tout le pourtour himalayen. Aujourd'hui, on a Arunachal Pradesh, hier au Ladakh, partout. Et c'est comme lorsque les Pakistanais étaient attaqués par les Indiens, ils ont nié qu'il y ait eu la moindre frappe. Là, on nie qu'il y ait la moindre attaque ou la moindre atteinte à l'intégrité territoriale indienne pour ne pas avoir à reconnaître la faiblesse indienne vis-à-vis de la Chine. Donc, une Russie plus proche de la Chine, quand la Chine continue à pousser, alors que, en plus de ça, l'Inde dépend commercialement de la Chine de plus en plus, on vient d'avoir les chiffres là, jamais le commerce indo-chinois ou sino-indien n'avait été aussi important. Les 9 mois de l'année qui viennent de s'écouler, de 2022, n'ont jamais vu autant d'importations indiennes de Chine. L'Inde ne peut pas fonctionner, son industrie ne peut pas fonctionner sans la Chine. Donc il y a cette espèce d'énorme contrainte que viendrait renforcer effectivement un affaiblissement de la Russie qui la rapprocherait encore de la Chine.
Alors si on pousse plus loin le raisonnement de Christophe Jaffrelot, la question qui vient, Olivier Dallage, c'est de savoir, dans un monde de plus en plus bipolaire finalement, avec cette rivalité au sommet entre les États-Unis et la Chine, quel sera le positionnement de l'Inde ?
Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que la position officielle de l'Inde, à l'éclatement du conflit en Ukraine, a fait quasiment consensus de toute la classe politique, à de rares exceptions près, de la plupart des grands journaux, à de rares éditorialistes près, et de la communauté universitaro-stratégique. Alors, on voit quand même quelques questionnements qui arrivent dans les journaux sur le thème, si ça continue, ce sera pas tenable, parce que malgré tout, on a aussi besoin des Occidentaux dans l'Indo-Pacifique, etc. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans le processus de décision affirmative. Oui, il y a eu 2 votes ou 3 à l'ONU contre la Russie, mais c'était des votes purement techniques pour autoriser Zelensky à s'exprimer par vidéoconférence. Ils diffèrent une décision qu'ils craignent de devoir prendre, ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, effectivement, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs dans votre ouvrage, Olivier Dallage, c'est la timidité de la diplomatie de l'Inde. Jean-Luc Racine, est-ce qu'on peut imaginer effectivement un moment où l'Inde va... Parce qu'on voit tout de même que la relation avec la Russie aujourd'hui, elle est d'une certaine manière dans une impasse. Ça n'a pas été dit comme ça, mais on peut peut-être en faire cette lecture à travers ce que vous avez dit. Et donc, un moment où l'Inde va devoir sortir de sa diplomatie timide, comme l'a décrit Olivier Dallage, Jean-Luc Racine.
Oui, je pense qu'à New Delhi, on ne voit pas forcément les choses tout à fait comme ça. Dans la mesure où, par rapport à la vision, on va dire, occidentale du conflit ukrainien, parmi la trentaine, en gros, et quand il y a un vote important sur l'Ukraine à l'ONU, à l'Assemblée générale, il y a à peu près 35 pays qui s'abstiennent régulièrement. Parmi eux, la Chine, l'Inde, bien sûr, mais aussi un certain nombre de pays d'Amérique latine ou d'Afrique. Donc, j'ai l'impression qu'à New Delhi, on ne voit pas exactement les choses comme à Washington ou à Paris, et qu'on estime qu'on a encore des marges de manœuvre. Mais ceci étant, quand on voit l'importance que l'Inde accorde à l'idée de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour y intégrer 10 nouveaux membres, dont 6 membres permanents elle-même, le Japon, l'Allemagne, le Brésil et 2 autres qui pourraient être africains ou du monde arabe. Ce discours sur le système onusien est très important, mais il faut le mettre à jour. C'est un peu contradictoire avec la position systématique d'abstention dans les votes décisifs, politique d'abstention que l'Inde maintient depuis février. Et quand on regarde ce que j'ai fait récemment, toutes les interventions indiennes au Conseil de sécurité sur l'Ukraine, on voit toujours se répéter les mêmes arguments, quoi qu'il se passe, c'est-à-dire respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États. Ça a l'air d'aller dans le sens d'une condamnation de Moscou. Mais en fait, ce qu'on met en avant, c'est la nécessité de la paix par le dialogue et la diplomatie et un appel réitéré au cessez-le-feu. Il y a une rhétorique qui ne change pas au fil des événements.
Rhétorique qui ne change pas au fil des événements. Je vous interromps, Jean-Luc Racine, parce qu'on va laisser la place au journal. Et on vous retrouve avec Christophe Jaffrelot et Olivier Dallage après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Inde. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. En studio, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et du CNRS, président de l'Association française de sciences politiques, l'AFSP, et auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de L'Inde de Maudit, paru chez Fayard. Également L'Inde contemporaine, en édition de poche chez Fayard toujours. Et Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI, son dernier ouvrage, L'Inde, un géant fragile, qui vient de paraître aux éditions Erol. Jean-Luc Racine, j'ai dû vous interrompre sur l'ONU et la position de l'Inde qui souhaite une réforme, et notamment autour du droit de veto des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une géopolitique propre au nationalisme hindou au pouvoir aujourd'hui à New Delhi ?
Alors, disons que au-delà du réalisme, sur lequel je reviendrai dans un instant, qui est quand même une ligne de force de la diplomatie indienne, il y a une rhétorique, une petite musique qu'on entend régulièrement et qui s'inscrit effectivement dans l'idéologie de l'hindoutva, de l'hindouité propre au nationalisme hindou aujourd'hui au pouvoir. Dans tous les discours, on retrouve cette vieille phrase sanscrite « Le monde est une seule famille », ce qui est une façon de dire que la montée en puissance de l'Inde sera bonne pour le monde entier. Sur la question de l'environnement, on entend la même petite musique qui nous rappelle la tradition hindoue unifiant l'homme, la nature et le cosmos. C'est le discours qu'avait tenu Narendra Modi lors de la COP21 à Paris. Et on pourrait multiplier les exemples. J'en prends un dernier extrait du discours du ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, où il évoquait la société indienne pillée pendant des siècles par les attaques étrangères et le colonialisme. Les attaques étrangères, c'est bien sûr une référence aux invasions de conquérants musulmans venus de l'Ouest ou d'Asie centrale. Ce qui, le réalisme étant la ligne de force, n'exclut absolument pas, pour New Delhi, d'entretenir des liens étroits avec les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tout autant qu'avec Israël.
Christophe Jaffrelot.
Oui, alors dans nationalisme hindou, il y a nationalisme et hindou. Et il faut regarder, je pense, les choses dans ces deux perspectives. Comme le dit Jean-Luc, le réalisme prévaut quand même à bien des égards. On ne voit pas l'Inde changer de ligne vis-à-vis des pays arabes, au contraire d'ailleurs. Il y a un pragmatisme remarquable de ce point de vue-là. MBS a été reçu en grande pompe. Les Émirats arabes unis n'ont jamais été aussi présents en Inde, notamment en termes d'investissement. Là, on ne peut pas dire que l'attitude anti-musulmane du régime indien en Inde, se traduisent en termes de relations extérieures. Par contre, il y a quand même une chose très importante, c'est comment le nationalisme hindou favorise la relation à la diaspora hindoue dans le monde. Et Dieu sait si celle-ci est importante aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
On peut en parler avec
le nouveau
Premier
ministre. On en reparlera volontiers. C'est un sujet très, je dirais, émergent, mais maudit. Alors ça, c'est une vraie innovation. Lorsqu'il est en visite à l'étranger, met un point d'honneur à toujours rencontrer la diaspora hindoue, c'est le sous-titre, même si on ne le dit pas, que ce soit au Texas avec Trump, dans le stade de Wembley, en Australie, à chaque fois, c'est des moyens d'activer des relais pour sa politique étrangère. Et puis, on peut aussi dire que la relation avec Israël est quand même très, très surdéterminée par cette idée suivant laquelle Hindutva et sionisme ont des affinités et qu'on est encerclé, quote-unquote, entre guillemets, par les musulmans et qu'on a des intérêts communs à défendre. C'est un des sous-titres aussi de la relation avec Israël, et notamment au plan militaire. Maintenant, il y a une autre facette de tout ça, et c'est le nationalisme. C'est une diplomatie très nationaliste, qui n'a plus les apparences d'autrefois. Quand Blinken dit à Modi ou dit à Jaishankar « Nous sommes très inquiets de la situation des droits de l'homme en Inde », Jaishankar lui répond « Nous sommes aussi très inquiets des droits de l'homme aux États-Unis ». On ne peut pas imaginer ce genre de réplique sans avoir cette force nationaliste comme véritablement surdéterminante, en quelque sorte. Alors, ça a pour nous des implications. Quand je dis « nous », c'est « nous occidentaux ». Le nationalisme hindou est un autoritarisme qui est en train de mettre les droits de l'homme, l'état de droit, en miettes. en Inde.
D'où le titre de votre livre non traduit en français, mais c'est la première dictature indienne.
Alors ça c'était l'état d'urgence des 70, mais le titre effectivement faisait écho à la situation actuelle. On est effectivement vers une forme d'autoritarisme qui sans doute explique pourquoi se rapprocher des États-Unis est si difficile aujourd'hui. Parce que finalement, la grande différence entre ce que défend Biden, le Forum des démocraties, et ce que Modi a en tête, c'est on ne veut pas de l'ordre libéral post-45, de ces forums où on peut défendre les droits de l'homme à Genève ou ailleurs. Et là, il est effectivement beaucoup plus proche, alors pas seulement du groupe de Shanghai, mais des BRICS, dont on n'a pas non plus parlé encore, mais qui est un endroit très important. Pourquoi est-ce que Indiens et Chinois et Russes et Brésiliens de Bolsonaro continuent à se retrouver contre l'Occident, contre les valeurs occidentales? C'est au nom de cet anti-libéralisme quand même. Donc moi, je dirais que la diplomatie nationaliste hindoue, elle est réaliste, elle a quand même une facette ethno-religieuse, mais surtout, elle va contraindre l'Occident, lorsqu'il voudra s'appuyer sur l'Inde, chaque fois qu'il s'agira de défendre des valeurs qui s'expriment en termes de droits de l'homme. Et du coup, on a un vrai problème. Le State Department cherche à le contourner. Comment est-ce qu'on engage India quand on doit parler droits de l'homme aujourd'hui? Et les Européens sont dans la même situation. Leur dialogue UE-Inde sur les droits de l'homme est pour l'instant totalement creux.
Alors là aussi, beaucoup de choses, l'activation des relais, on l'a dit très rapidement, c'est le moment peut-être d'approfondir la question, le nouveau Premier ministre anglais qui a ses racines en Inde, Rishi Sunak, c'est une vraie consécration pour les British Indians, comme l'on dit, qui est la plus forte minorité du pays. Est-ce que ça peut, Olivier Dallage, changer quelque chose? Mais au-delà de cela, Christophe Jaffrelot le disait, Jean-Luc Racine aussi, cette diplomatie nationaliste de l'Inde, est-ce qu'elle est unie aussi, cette diplomatie où il y a des débats en Inde sur la façon d'orienter la politique étrangère du pays, Olivier Dallage?
Oui, bien sûr, il y a des débats, je dirais, avec quelques personnalités qui sortent du lot, et pour le reste, c'est sur la nuance, mais globalement, comme on disait tout à l'heure, elle fait plutôt consensus. Alors, juste d'un mot sur ce qui a été dit précédemment, il y a un discours très idéologique, très nationaliste et une pratique qui est très réaliste ou opportuniste et cynique. Parce qu'il n'y a pas que les pays arabes du Golfe qui a travaillé de manière tout à fait satisfaisante de son point de vue Narendra Modi. Il avait également de très bonnes relations avec la République islamique d'Iran et jusqu'à la chute de Kaboul avec le gouvernement afghan des musulmans. Tout ça dans l'optique d'isoler le Pakistan. Et ça a plutôt pas mal marché dans l'ensemble.
Ça a changé avec l'arrivée des talibans
Afghanistan. Bien sûr,
c'était une
catastrophe
pour l'Inde. Oui.
Ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'Inde. Et la question reste ouverte de savoir si c'est une bonne nouvelle pour Pakistan aussi, mais ça, on verra plus tard. En tout cas, s'agissant de l'accession au pouvoir de Rishi Sunak, ça a été traité quasiment comme un événement de politique intérieure par la presse indienne. Il y a eu des pages entières. Et plus que son ascendance indienne, certains vont jusqu'à mentionner, mais en tout petit caractère, que sa famille d'origine se trouve plutôt dans une localité aujourd'hui au Pakistan, c'est le fait qu'il soit hindou et qu'il ait fêté Diwali devant la porte de son ministère quand il était ministre des Finances. Et deux jours ayant passé, trois jours, quatre jours, la presse commence à se demander si c'est vraiment un avantage pour l'Inde, dans la mesure où les gens d'origine indienne ont besoin de prouver qu'ils ne sont pas aux ordres de l'Inde et donc qu'ils se montrent plus durs que les autres. Là aussi, l'avenir n'est pas encore écrit, mais c'est intéressant de voir la progression psychologique des commentaires. On se félicite qu'un Indien devienne, c'est la revanche quand même sur l'Empire, l'Empire contre-attaque. Quelqu'un d'origine indienne aujourd'hui dirige l'ancienne puissance coloniale. Après, on se dit, c'est... on est fiers. Et puis, troisième temps, est-ce que ça va vraiment changer les choses?
Jean-Luc Racine, la relation avec les États-Unis, on a bien vu qu'avec Joe Biden, les relations ne sont pas ce qu'elles ont été avec Donald Trump. Donc là aussi, élection de mi-mandat dans 2-3 semaines aux États-Unis, ce sera le 8 novembre. Les choses, on connaît le rôle du Congrès, peuvent éventuellement évoluer. J'aimerais peut-être à ce stade de l'émission qu'on revienne sur ce qu'a évoqué Christophe Jaffrelot précédemment, c'est la perte du terrain de l'Inde sur le pourtour himalayen. Comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation qui prévaut aujourd'hui, Jean-Luc Racine?
Il faut rappeler évidemment que tout au long de la frontière himalayenne, dans son extrémité orientale comme dans son extrémité occidentale. Il n'y a pas consensus entre New Delhi et Pékin sur ce qu'est véritablement la frontière. Les possibilités d'accord qui avaient été envisagées par Chou Enlai, alors Premier ministre chinois, n'avaient pas été pris en compte véritablement par Mirou. D'où la guerre de 1962 qui avait été brève mais humiliante pour New Delhi. Tout cela a repris une nouvelle forme avec les avancées, les poussées chinoises, on va dire, le long de la frontière, aussi bien en bilatéral, Inde-Chine, que parfois en trilatéral, je pense aux incidents dits de Doklam en 2017 entre la Chine, le Bhoutan et l'Inde. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est en 2020, le fait qu'il y ait eu des morts le long de la frontière lors d'incidents violents, pas par des coups de feu, car les armes à feu sont interdites le long de la frontière, mais il y a eu officiellement une vingtaine de soldats morts côté indien. Côté chinois, évidemment, on ne sait pas ce qu'est la vérité. Et comme Christophe le disait, on a d'un côté de multiples rapports, y compris d'élus locaux du Ladakh, qui disent que les Chinois ont grignoté des terres que nous revendiquons, alors que la ligne officielle de Narendra Modi est de ne pas reconnaître ces avancées. Au-delà de cela, le dialogue se poursuit, alors aussi bien au niveau des diplomates ou des conseillers à la sécurité nationale, qu'au niveau des généraux des deux côtés de ce qu'on appelle la ligne de contrôle qui sépare le Ladakh sous contrôle indien de l'accès de Chine sous contrôle chinois entre le Xinjiang et le Tibet. Et toutes ces rencontres, il y en a eu une quinzaine du côté des militaires, stabilisent en quelque sorte la situation sans résoudre le problème. Et en même temps, on voit de l'autre côté de la frontière, côté Arunachal Pradesh, la Chine qui multiplie la création de nouveaux villages à proximité immédiate de la ligne de contrôle, l'Inde qui de son côté renforce ses équipements de liaison stratégique en construisant des routes, en renforçant des aéroports militaires. Donc la situation reste tendue. La position indienne là-dessus est claire vis-à-vis de la Chine en disant on ne pourra pas améliorer nos relations si la question de la frontière est mise de côté. Alors que la position chinoise consiste à dire nous avons des intérêts communs dans un certain nombre de choses, donc laissons la frontière à sa juste place et avançons sur le reste. Donc de ce point de vue-là, la position indienne reste ferme sur le plan diplomatique. Elle essaie de conforter ses positions stratégiques, mais la poussée chinoise reste conforme, en gros, à la ligne de Xi Jinping, qui sort évidemment, comme chacun sait, renforcée du dernier congrès du Parti communiste chinois.
Christophe Geoffrelot.
Oui, ce que vient de dire Jean-Luc est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Inde est en train de perdre du terrain dans l'Himalaya, alors que son discours, comme il le dit, de fermeté n'a jamais été aussi, je dirais, éloquent. Il y a un écart entre la parole, on défend l'Inde, on défend notre territoire, et la réalité du terrain. Le jour où cette réalité du terrain finira par être admise et puis discutée, parce que la sphère publique est quand même très contrôlée en ce moment, et les médias aussi, mais un jour, forcément, cela sortira, et là, on aura un réveil assez douloureux. À quoi s'ajoute quand même un autre échec, et il faut quand même évaluer la politique indienne en termes de réussite et d'échec aussi, quand même. Hein. Un autre échec de la politique étrangère indienne, c'est le pourtour, c'est les voisins. C'est-à-dire qu'on a mis les voisins en premier, hein, neighborhood first. Il fallait que le voisinage soit la priorité des priorités. Il y avait le Népal, il y avait Sri Lanka, il y avait le Bangladesh, on avait oublié le Pakistan, forcément, puisque là, c'est perdu d'avance. Dans tous ces pays, à l'exception peut-être du Bangladesh, l'Inde est en recul face à la poussée chinoise. Le Népal est en train de basculer du côté chinois. Et l'arrogance indienne, pour le coup, le mot s'impose, les a aussi poussés dans les bras des Chinois. Car lorsque les Népalais ont révisé leur constitution, l'Inde a voulu y mettre son propre grain de sel. Et ça a été très mal perçu par Katmandou. Sri Lanka est quand même une trajectoire étonnante. Cet été, l'Inde débourse des milliards pour aider Sri Lanka, qui, vous en souvenez,
est en faillite.
Quelques semaines plus tard, les Chinois annoncent l'arrivée d'un véhicule de surveillance dans le port en eau profonde de Hambantota. Les Indiens disent « pas question ». En plus, on vient de sauver Colombo de la faillite. Le vaisseau est arrivé et ça a été une humiliation de plus pour l'Inde. Sri Lanka est entre les mains, entre guillemets, des Chinois. Donc, il y a là des échecs, de véritables échecs sur des fronts prioritaires. Et dans l'océan Indien, l'Inde ne réussit plus à faire face à la poussée chinoise. On pourrait évoquer d'autres îles plus petites. Et ce bilan non plus, il n'a pas été fait. Hein. Ni sur terre, ni sur mer, on ne voit véritablement la puissance indienne, la soi-disant puissance indienne, réussir à, ne serait-ce que, faire respecter son propre pourtour immédiat.
Le Sri Lanka qui est tenu par la dette du Sri Lanka à l'égard de la Chine dans son projet de route de la soie. Ça a été un exemple absolument patent. Peut-être, bien sûr, je vais vous passer la parole, Olivier Dallage, et presque en guise de conclusion, peut-être pour déjà poursuivre et rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit et sur les défis finalement de l'Inde aujourd'hui.
Justement, moi je suis surpris que l'Inde ne mette pas en avant un succès diplomatique réel, c'est-à-dire l'échec des routes de la soie. Actuellement, la Chine n'est pas en mesure de donner à ce grand projet de Xi Jinping toute la mesure qui était annoncée. Mmh. Et l'Inde, qui s'était retirée de tous les projets de routes de la soie, presque seule finalement, pourrait très bien dire « je vous l'avais bien dit », elle ne le fait pas. C'est assez surprenant. Mmh.
Jean-Luc Racine, en guise de conclusion, ou Olivier Dallage, je ne sais pas, mais finalement, voilà, je pense qu'on a mis sur la table beaucoup de choses et pris plusieurs chemins. Les grands défis de l'Inde aujourd'hui et quelle place finalement, on l'a vu dans son relation avec la Chine, perte d'influence dans le pourtour himalayen et dans le voisinage immédiat. Quelle place pour l'Inde dans l'agenda américain, Jean-Luc Racine ?
En réalité, il y a deux paramètres fondamentaux. D'un côté, il y a les équilibres ou les déséquilibres géopolitiques d'un monde de plus en plus fluide. Et là, l'Inde, avec Jaishankar, a une ligne d'analyse qui est assez claire. Mais l'autre paramètre, c'est évidemment ce qu'est véritablement, ou pas, la puissance économique indienne. Parce que certes, l'Inde s'est haussée au cinquième rang mondial. Enfin, le cinquième rang mondial, elle est dans un mouchoir de poche avec la Grande-Bretagne et avec la France. Ce qui veut dire que, en fait, des pays européens correspondant à un État indien moyen, le Tamil Nadu par exemple, hein, quelque chose comme une population comparable à la population française. Donc là, le 1 milliard, bientôt 400 millions d'habitants, ça a été dit, l'Inde va devenir dans les prochaines années la première puissance démographique du monde, dépassant la Chine, mais son poids dépendra beaucoup de sa politique économique. Alors, New Delhi peut se dire, il y a des signaux positifs, on a vu un afflux d'investissements, en particulier dans le numérique, avec des milliards de dollars venus essentiellement des États-Unis qui s'investissent en Inde aujourd'hui. Mais ce sont des lignes à confirmer, puisque la croissance se ralentit comme dans beaucoup d'autres pays. Et là, il y a un enjeu, on ne peut pas dissocier, bien sûr, la géopolitique indienne de ce que sont ses forces vives ou ses faiblesses.
Merci Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Merci aussi Christophe Jaffrelot, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et du CNRS, président de l'Association française de sciences politiques et auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de l'Inde de Modi, paru aux éditions Fayard, et l'Inde contemporaine en version poche, toujours chez Fayard. Et Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI et auteur de L'Inde, un géant fragile, qui vient de paraître aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Nathalie Laporte et Yasmine Boulan. Samedi prochain, nous parlerons des États-Unis à quelques jours des élections de mi-mandat. À très bientôt.